Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je ne vais pas tout à fait parler de ces questions d'agnotologie, de non-transfert, mais les thèmes que je vais évoquer sont tout à fait liés à cette question. Mais j'ai essayé de parler d'exemples que j'ai dû étudier, enfin que j'ai utilisé pour écrire le livre et la thèse dont il est issu. Et c'est des exemples qui peuvent faire écho à ce que Candice Lin a fait dans son exposition. Je vous laisserai faire les liens et j'espère que ça donnera l'occasion de discuter un peu. Et effectivement, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de partir non pas de la figure de Jeanne Barré ou des explorateurs et exploratrices qui ont été posés des questions et qui se sont appropriés des connaissances, mais c'était de partir plutôt d'un certain nombre de savoirs qui, pour des raisons historiques, sont plutôt associés aux femmes et qui ont été qualifiées ou plutôt disqualifiées comme étant des formes de magie. Donc magie amoureuse notamment, hein, c'est un concept qui a peut-être été un peu oublié, mais qui avait son importance entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et on le retrouve beaucoup dans les procès inquisitoriaux. Je vais y revenir sur la question de l'Inquisition. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que contient un peu le titre, hein, c'est que l'une des pistes de recherche, c'est de montrer comment est-ce que cette magie amoureuse est aussi une magie de la mort, une magie qui tue, et donc une magie qui permet de comprendre un certain nombre de conflits, notamment entre les femmes et les hommes, mais pas seulement. Et à partir de là, de comprendre justement le pouvoir des plantes et ce qu'on peut faire avec les plantes une fois qu'on les connaît, qu'on sait les manipuler. Donc, dans cette histoire, les passagers clandestins ou les passagères clandestines, plutôt, ce seront des plantes. Donc là, vous avez quelques exemples. Certains sont célèbres. Je pense notamment en bas à gauche à la coca. En haut à gauche, vous avez une représentation supposée du peyotl, mais ce n'est pas sûr que ce soit véritablement le peyotl. Donc le peyotl, contrairement à ce que vous voyez sur cette illustration qui est extraite d'un codex, c'est un tout petit cactus, vraiment très petit, dont on extrait aujourd'hui une molécule qu'on appelle la mescaline et qui est fortement hallucinogène et qui avait aussi donc ce cactus des pouvoirs à la fois aphrodisiaques, magiques et donc qui était utilisé dans le cadre de la magie amoureuse. Si vous regardez sur l'illustration de la coca, donc vous avez en fait un homme qui donne de la coca à ce qu'il appelle sa sœur. Et effectivement, ça rappelle dans le texte dont est extraite cette image le rôle de la coca dans aussi un certain nombre de pratiques liées à la magie amoureuse. Mais on va y revenir de façon plus précise. Est-ce que vous avez à droite ce qu'on appelle des fleurs de joie? Et je vais m'attarder un peu plus là-dessus. Donc, elles sont extraites. Enfin, c'est des images qui sont extraites d'un texte écrit par un missionnaire franciscain au XVIe siècle. Donc, c'est une immense histoire du Mexique qui s'appelle l'Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, mais dont la version qu'on connaît le mieux a été conservée pour des raisons historiques à Florence, d'où son nom de Codex de Florence. Et il développe un passage sur un certain nombre de femmes qui sont les femmes de mauvaise vie. Et on voit effectivement que la connaissance de certaines plantes ou d'autres substances donc, qui pénètrent les corps, qui sont mêlées aussi aux sécrétions corporelles, donc ça fait vraiment écho à l'exposition, sont un peu des éléments de définition de ces femmes de mauvaise vie. Donc je peux lire le passage si ça vous intéresse. La pute est une femme publique et possède les caractères suivantes. Elle vend son corps, se lave souvent parce qu'elle est très sale et luxurieuse. Elle se regarde dans le miroir et a l'habitude de s'appliquer un onguent de terre jaune. Elle a aussi l'habitude de se faire des fumigations avec des encens odorants, de mastiquer le tzikli pour se laver les dents et elle vend ces choses aux autres femmes. Il y a aussi celle qui pervertit le cœur des autres femmes et les gagne à sa volonté. Très rhétorique dans sa façon de parler, elle use de paroles savoureuses pour tromper, et ainsi elle conquiert avec ses paroles des hommes fascinés. Et ce que montrent aussi les images, c'est que ces fleurs de joie que manipulent ces femmes contribuent aussi à cette rhétorique de manipulation, et non seulement parce qu'elles peuvent être utilisées pour se parfumer, donc il y a toute cette question des odeurs, etc. Et bon, les odeurs, c'est aussi quelque chose d'assez important dans cette exposition. Mais c'est aussi parce que certaines de ces fleurs ou de ces plantes ont des pouvoirs. Elles peuvent envoûter les hommes et les femmes. Et c'est ce qu'on va voir. Et donc, si on s'intéresse au cas du Mexique et qu'on regarde de manière plus précise, au-delà de ces fleurs de joie, les autres plantes qui sont utilisées à partir du XVIe siècle, eh bien, il y en a plusieurs sur lesquelles je voudrais m'attarder. Donc vous en avez une qui s'appelle l'estafiate, ça n'a pas trop d'équivalent en français. Donc c'est une plante assez fréquente dans, dans la magie amoureuse, j'en parlerai peut-être si j'ai le temps. Vous en avez une autre qui est très très importante, parce qu'elle a des pouvoirs aphrodisiaques, et aussi parce qu'elle est, est progressivement au cœur des relations domestiques, donc dans les maisons, c'est le chocolat, tout bêtement, donc on en reparlera. Et puis, vous en avez une autre qui m'intéresse beaucoup, qui est le Toloatzin, qu'on appelle aussi Tlapatl. Je vais y revenir plus parce que c'est vraiment l'une des plantes clandestines par excellence. Alors, pour expliquer justement un peu ce, le caractère clandestin de ces plantes et, le, et les raisons pour lesquelles ça rejoint cette question de l'interdiction, du non-transfert, etc., c'est qu'en fait, toutes les plantes que je vous ai montrées là rapidement, elles ont fait l'objet de censures ou de formes de prohibition, et notamment de la part d'une institution qui s'appelle l'Inquisition. Donc, c'est un tribunal qui est à la fois religieux et juridique, l'Inquisition. Et la particularité, c'est que en 1470, il y a une, enfin, il y a une, comment dire, une forme de une série de lois qui sont promulguées en Amérique et qui redéfinissent le statut, le rôle et le, comment dire, la, l'organisation institutionnelle de l'Inquisition. Et ça a une application majeure, c'est vraiment très important, c'est qu'à partir de cette date-là, l'Inquisition ne peut plus juger les Indiens et les Indiennes. Donc ça veut dire que si toutes ces plantes sont interdites, c'est parce qu'elles ne sont pas utilisées par les populations qu'on qualifie d'indigènes, mais parce que leur usage s'est diffusé aux autres populations, parmi lesquelles figurent évidemment les Espagnols, mais aussi donc les Noirs qui viennent d'Afrique et toutes les personnes qui sont qualifiées dans la nomenclature coloniale de métis, de mulâtres et mulâtresses, etc. Donc en fait, c'est des plantes qui circulent, et c'est parce que ces plantes circulent qu'elles font l'objet d'une prohibition et donc de ce qu'on pourrait appeler un non-transfert. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer en fait cette question, à la fois de la facilité avec laquelle la plante circule parmi les habitants de l'Amérique et de l'intérêt pour, du point de vue du pouvoir de limiter ses circulations. L'une des premières raisons, elle est liée en fait au rapport qu'on entretient aux plantes. Et on peut l'observer notamment à travers une question qui est le rapport à ce que j'appellerais l'invisible. Alors, c'est ce que je vais vous montrer, donc la question de l'invisible qu'il faut saisir à travers plusieurs sens. Et là, je vais vous citer le cas d'un... Enfin, tous les exemples, vous les retrouverez dans le livre si ça vous intéresse, mais là, j'ai pris les exemples qui étaient les plus parlants. Et celui-ci montre bien, en fait, ce qui est en jeu dans l'usage de ces plantes. C'est-à-dire, en fait, l'idée que je voudrais développer, c'est pas simplement... c'est que les plantes posent des problèmes pas uniquement parce qu'elles ont des molécules, des propriétés, etc., mais elles posent aussi des problèmes parce qu'elles sont le support de conception du monde qui, du point de vue d'une institution comme l'Inquisition, vont poser problème parce qu'elles vont être considérées comme idolatriques, superstitieuses, etc. Donc, il y a effectivement cet enjeu hein, qui est la pluralité des modes de relation au réel. On peut appeler ça des croyances, mais je pense qu'on peut aussi appeler ça des savoirs. Et donc, c'est le premier problème. Là, on a le procès d'une guérisseuse qui va aussi être qualifiée, évidemment, de sorcière avec... une chose qui est assez ambiguë en espagnol parce qu'il y a vraiment deux termes assez différents pour appeler les sorciers et les sorcières, hein, celui de hechicería et de brujería, mais ça c'est des considérations qui sont un peu compliquées, qui sont liées notamment à des aspects de théologie, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, retenez que hechicería, ça peut vouloir dire sorcellerie, mais dans un sens moins fort, si vous voulez, que brujería. Donc voilà le procès donc, de cette femme qui s'appelle Maria de Córdoba à Lima en 1655. Cette accusée avoua sa vie débauchée et certains de ses apprivoisements. Donc le mot apprivoisement, c'est un essai de traduction, mais on y reviendra. Et elle avoua que par vice et parce qu'on disait que c'était bon pour la dentition, elle mâchait la coca. Donc la coca dont on a parlé, et elle avouait avoir consulté certaines hechiceras pour manipuler le sentiment et la jalousie de ses amants. Lors de ses visions, elle voyait l'Inca et demandait si les hommes lui donneraient de l'argent ou s'il fallait infliger une correction à un homme. Puis elle avoua que toutes les personnes affirmant utiliser la coca pour soigner leurs dents ou leur estomac mentent et qu'elles le font en réalité pour voir dans le librillo, donc je traduis par bol, mais c'est pas tout à fait convaincant, donc un récipient, ou au moins pour voir des choses occultes. Et pour mieux faire comprendre ses délits, voici la façon dont elle mâche et conjure la coca. Donc là, c'est des conjurations à la fête à la coca, elles sont très belles. Donc coca mia, mamma mia, je te mâche pour mon bien et non pour mon mal. Et je ne te mâche pas, toi, mais le cœur de mon homme, pour que des diables aussi nombreux que les fils de sa chemise l'incitent à m'aimer. Je te conjure, coca mia, avec Barabbas, avec Satan, avec le diable boiteux, avec celui des pêcheurs, celui des marchands, etc., celui des lettrés et bien d'autres. Et troisième conjuration, coca mia, maman, tu dois faire ce que je te demande pour la foi que j'ai en toi, pour celui qui t'a semé et cultivé, pour tous ceux qui t'idolâtrent, pour l'Inca, pour le soleil et la lune qui t'éclairent dans la terre où tu fus semé, etc. etc. Donc c'est un texte qui est extrêmement intéressant parce que tout d'abord, les inquisiteurs ont pris le parti de retranscrire ces conjurations. Alors évidemment, il y a un énorme filtre, c'est que d'une part, le premier filtre, c'est que ça dépend de ce que l'accusé a bien voulu dire au juge. Donc ça, c'est le premier filtre. Et le deuxième filtre, c'est ce que les juges ont bien voulu en retenir, en retranscrire, etc. Donc ça donne une idée qui est évidemment imparfaite. Hein. C'est plus de la suggestion qu'une documentation purement positive. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit que l'usage de la coca, donc un geste qui consiste à mastiquer une feuille, prend son sens dans tout un réseau de conceptions du réel et qui sont des conceptions qui s'attachent autant à la visibilité de la plante, à sa matérialité, qu'à ses liens avec des entités qui sont invisibles. Donc parmi ces entités, vous avez l'Inca, donc, qui peut renvoyer au chef suprême du Tahuantinsuyu, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Empire Inca, mais c'est aussi une divinité. Qui fait l'objet d'une vénération. Vous avez le soleil, donc Inti, hein, là on est dans les Andes, je vous le rappelle, donc qui est un peu l'entité suprême pour les Incas. Vous avez la lune, vous avez la terre évidemment, parce que c'est extrêmement important et que la coca vient de là, donc elle peut être considérée comme un cadeau fait par la Pachamama aux êtres humains et tout ça. Donc ces conjurations, elles sont intéressantes aussi parce qu'elles montrent que c'est aussi ce sens-là, c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Un continuum l'invisible », c'est qu'elles montrent aussi pourquoi est-ce que ces plantes peuvent passer de certaines populations à d'autres, parce que précisément, c'est dans ces rapports à l'invisible qu'il y a beaucoup de communication ou même de contamination des imaginaires. Et là, vous le voyez très bien, puisqu'elle parle de Satan, elle parle des diables, etc. Donc, elle parle en fait d'entités qui sont présentes dans le christianisme, mais qu'elle a, d'une certaine manière, inversé les polarités, puisque plutôt qu'aux saints chrétiens, qu'à la Vierge, etc., c'est vers les entités maléfiques du christianisme qu'elle a décidé de se tourner lorsqu'elle prend la coca. Donc, c'est dans ces répertoires de vocation, etc., que s'opère de manière très concrète la communication de ces imaginaires. Et vous voyez aussi que la coca, donc ça, c'est dans la première partie du texte, elle est liée à un ensemble de pratiques qui consistent à délirer, à avoir des visions, à écouter la plante. Donc, on va voir que la coca, dans ce cadre, elle peut être prise avec d'autres substances qu'on qualifierait de psychotropes et que, par conséquent, mâcher la coca, c'est aussi entrer en dialogue avec la plante et voir comment agir. Et on verra hein, que ce qu'elle dit vraiment a du sens. Hein, c'est que ce qu'il faut donner une correction à un homme, affliger une correction à un homme, obtenir de l'argent, c'est tout un ensemble de choses auxquelles la coca peut... Enfin, ce genre de technique peut servir. Et je voudrais juste faire un dernier point sur ce texte parce que bon, il permet de très bien poser le problème. là, vous voyez dans la toute première partie du texte ce que font les inquisiteurs, cette espèce de séparation qu'ils instaurent. C'est que l'accusée, donc Maria de Cordoba, utilise la coca pour soigner donc, des rages de dents. Et effectivement, ça a ces pouvoirs-là, la coca, on l'utilise encore pour ça. Et elle donne aussi d'autres usages qui peuvent, par exemple, consister à corriger, enfin, à infliger une correction à un homme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique de cette personne qui est une guérisseuse, il y a une sorte aussi de continuité entre ce qui relève du fait de soigner une rage de dents et du fait de punir un homme. C'est, ce que je veux dire, c'est que ce qui pourrait nous paraître naturel aujourd'hui, la distinction entre le médical et le non-médical n'a pas de sens pour cette personne, puisque dans tous les cas, il s'agit de réparer des problèmes, et il n'y a pas de raison de considérer a priori qu'un problème avec une personne soit de nature différente d'un problème qui est posé par des dents. Donc ça, c'est les inquisiteurs qui opèrent cette distinction-là, et ça a un certain nombre d'intérêts. Donc ça, c'était le premier continuum. Le deuxième continuum qu'on va voir, hein, qui est lié à cet aspect qu'on retrouve déjà dans ce texte, qui est lié par exemple à l'argent, etc., eh bien, c'est le fait que ces pratiques de manipulation des plantes, de guérison, etc., donc, ça crée aussi, à partir du XVIe siècle, un véritable marché. Alors bon, ça, c'est quelque chose de compliqué, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a une certaine différence entre la manière d'employer les plantes et de prendre en charge des maladies avant la conquête de l'Amérique et la façon dont ensuite ce genre de pratiques vont se développer après la conquête. Et ce que je veux dire, donc, c'est que l'une des raisons qui explique cette transformation, c'est le fait que peu à peu, ces pratiques de soins deviennent des pratiques marchandes. C'est-à-dire qu'on soigne quelqu'un et on gagne avec ce soin de l'argent. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais ça prend une dimension de plus en plus importante à partir du XVIe siècle. Et ça crée effectivement une vraie différence dans la mesure où la pratique de soins a deux finalités, soigner et s'enrichir. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a cette communication des imaginaires qui se développe, parce que pour satisfaire le maximum de clients et de clientes, bah, il est plus intéressant justement d'avoir le répertoire d'invocations le plus large possible. Et c'est pour ça que les guérisseurs et les guérisseuses ne cessent de s'emprunter des techniques magiques, des invocations et aussi des plantes elles-mêmes. Et donc, c'est la raison pour laquelle le peyote, la coca, etc. vont beaucoup circuler. Et l'autre raison donc, qui explique l'importance de cette marchandisation du soin, c'est que en Europe comme en Amérique, il y a un problème social fondamental qui est réglé par les guérisseurs et les guérisseuses. C'est effectivement le problème que les médecins ne peuvent pas régler. Et ce problème, c'est celui qui concerne les relations amoureuses. Et donc, c'est là que la magie amoureuse est extrêmement importante, parce qu'elle permet de vraiment s'attaquer à des choses qui font souffrir. Hein, donc, le chagrin d'amour, ça fait mal, donc il faut aussi le prendre en charge. Mais en fait, la magie amoureuse, elle répond à d'autres demandes, d'autres fonctions sociales, si on veut employer ce terme. Donc, c'est pour une personne le fait de trouver un conjoint et une conjointe, évidemment, mais ça peut aussi être le fait pour des parents de caser leur progéniture. Donc là, il y a tout une sorte de normes sociales qui jouent là-dedans. Ça peut aussi être tout bêtement l'envie de faire l'amour. Et une manière d'assouvir son désir. Et puis, d'autres techniques qui vont être extrêmement importantes, c'est justement de parvenir à ses fins avec quelqu'un. Et ça pose un problème à partir du moment où cette personne est déjà en couple. Et donc, une des techniques de la magie amoureuse consiste non pas seulement à obtenir les faveurs d'une personne, mais aussi à briser le couple ou à semer de la zizanie dans son couple. Et c'est là que vous voyez cette ambivalence, cette possibilité d'inverser complètement la magie amoureuse en une magie de haine, le filtre d'amour, donc comme filtre de haine. Et c'est la raison pour laquelle, on va le voir dans les passages qui suivent, cette magie amoureuse peut déboucher sur le fait de se débarrasser d'une personne ou de la calmer. On va voir ça avec les maris. Donc effectivement, pourquoi les maris? Parce que quand on regarde dans les sources des tribunaux inquisitoriaux, on se rend compte que les cibles principales de la magie amoureuse, ce sont les maris. Donc ça ne veut pas dire que ce sont les cibles uniques. En fait, quand on observe la totalité de ce genre de procès, on observe que les filtres d'amour sont utilisés par absolument tout le monde. Il y a des prêtres même qui les utilisent pour forniquer avec des femmes, avec des hommes, etc. C'est extrêmement varié. Tous les cas sont possibles, mais le cas dominant, c'est d'une femme qui donne son filtre d'amour à son mari. Et évidemment, ça peut au moins créer une première sorte d'étonnement. C'est que à quoi sert le filtre d'amour si il est donné à une personne avec laquelle on est déjà marié? Donc, c'est quand même curieux. Mais en fait, c'est parce que l'un de ses usages principaux ne consiste pas justement à créer le sentiment amoureux, mais plutôt à le restaurer ou à atténuer la haine d'une personne. Et c'est ce qu'on voit avec les trois exemples que je vous ai évoqués ici et que je vous ai montrés ici. Donc le premier, 1612, toujours à Lima. Donc c'est une guérisseuse qui s'appelle Ana de Castañeda. Et voilà ce que dit le procès. De nombreuses femmes allaient chez la dite Ana de Castañeda et lui demandaient des choses à donner à leur mari parce qu'il les grandait beaucoup. Et elle leur conseillait d'administrer une petite herbe aussi menue que la graine de laitue qui s'appelait paya paya. Donc il y aurait plein de choses à dire sur cette plante mystérieuse qui s'appelle paya paya, parce que, ou pala plutôt, parce que le mot pala, ça veut dire femme d'importance en quechua. Donc il y a plein d'enjeux en termes d'appropriation des conceptions des Incas, etc. Mais là, ce que vous voyez clairement, il me semble, c'est que le filtre d'amour sert en fait à tempérer la violence conjugale. Tempérer la violence du mari. Et c'est quelque chose qui n'est évidemment pas assez connu dans l'histoire des filtres d'amour, mais c'est peut-être leur première fonction. Et on les retrouve dans de très nombreux procès. Un autre exemple, en 1701, toujours à Lima. Teresa de Llanos, elle a mentionné d'autres faits superstitieux avec des pierres aimantées, des poudres et de l'herbe de perlia qu'elle disait être bonnes pour que les hommes aiment et ne maltraitent pas ses amis. Et donc, ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est qu'en fait, vous avez une guérisseuse qui est consultée prioritairement par des femmes qui ont des problèmes avec leur mari. Et donc, le fait de connaître ces plantes, de les manipuler, ça crée non seulement une sorte de solidarité entre les femmes victimes de ces violences, mais ça crée aussi une sorte de communauté qui va être protégée par le secret, puisqu'il n'y a aucun intérêt, évidemment, à ce que ces plantes soient connues par les maris. Et donc c'est vrai que là, en termes de passagers clandestins, les plantes sont extrêmement importantes. Elles créent ce genre de groupe, ce genre de solidarité. Et évidemment, lorsque les inquisiteurs s'attaquent à ça, ils ne s'attaquent pas simplement aux superstitions, à tous les problèmes théologiques que pose la magie amoureuse, notamment le fait que si elle fonctionne, alors il n'y a pas de libre arbitre. C'est un problème, si vous voulez, théologique, mais l'un des gros problèmes, c'est que ça crée une sorte d'esprit de résistance à l'ordre patriarcal. Et donc le dernier exemple qui fait vraiment écho à l'exposition pour le coup, donc 1660, Catalina Pizarro, donc toujours à Lima, cette accusée composée avec d'autres hechiceras, donc ça veut dire des groupes de sorcières hein, qui fonctionnent de manière collective, une eau forte d'excréments d'espagnols, de noirs, d'indiens, de chiens, de chats, de singes, de porcs et autres choses en les cuisant dans une casserole avec de l'eau de mer pour en arroser la porte d'un homme afin d'endommager sa santé et le ruiner. Donc bon, c'est vraiment idée recette, hein, si ça vous intéresse. Mais donc c'est intéressant parce que arroser la porte, en fait, ça a déjà un effet. On pourrait contester l'efficacité de ce genre de choses, mais il y a au moins une efficacité, c'est que ça rend visible le mari qui est responsable d'inconduite. Donc il y a plein de choses à dire sur ce qui se passe dans un quartier lorsque des femmes peuvent agir de la sorte. Après, il y aurait d'autres choses à dire sur ce passage, et c'est intéressant parce que là, on pourrait supposer une réécriture par les inquisiteurs, puisque vous avez espagnol, noir, indien, etc. Donc ça suit vraiment la hiérarchie des castes dans la société coloniale américaine. Donc il y a plein de choses à dire, mais je vais juste m'intéresser à ce qui est dit tout à la fin. Endommager sa santé et le ruiner, donc c'est ce moment où le filtre de haine devient vraiment le moyen d'une magie destructrice. Et en fait, ça montre en fait les différents aspects qui sont visés par cette punition des maris. Alors, premier point, hein, c'est l'honneur des maris, celui de la dénonciation, de la visibilisation de, de leurs inconduites, ce genre de choses. Et on va voir que c'est vraiment le point principal, parce que de l'attaque de cet honneur, en fait, peut passer par beaucoup d'aspects. Et donc, parmi ces aspects, il y a l'attaque que vous avez vue tout à l'heure avec... on s'attaque à la santé, on ruine la santé des maris. Et dans ce cadre-là, il y a notamment quelque chose qui est visé, hein, c'est la virilité des maris et donc la possibilité de les rendre impuissants, ce que font un certain nombre de plantes. Donc là, c'est le procès de Béatrice à Mexico au XVIIe siècle. Je l'ai trouvé dans un ouvrage de Ruth Béard qui est très intéressant. Béatrice lui expliqua comment réaliser un sort qui provoquerait l'impuissance du mari. Le remède consistait à prendre un œuf, à en perforer la coquille avec de la paille et à placer à l'intérieur quelques cheveux du mari, puis enterrer l'œuf là où l'homme avait l'habitude d'uriner. Donc là, vraiment, c'est très, très marrant de l'écho qu'il y a à avoir. Donc voilà, si ça vous intéresse, y a beaucoup, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui urinent là-bas, mais il y a des opérations magiques qui peuvent être éventuellement testées. Et évidemment, ça a en tous les cas un effet. Bon, je ne sais pas quel est l'effet de cette manipulation, mais il est clair que les plantes qui rendent impuissantes permettent, en fait, facilitent la possibilité de divorcer, puisque l'impuissance est un motif juridique du divorce. L'autre chose à laquelle on s'attaque, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est l'argent des maris, donc le fait de capter leurs biens matériels. Donc là, vous avez le procès d'un homme, cette fois-ci, Joseph Calvo, un magicien, un sorcier, et il fut dénoncé par plusieurs femmes qu'il avait sollicité pour obtenir un remède afin que leurs amis leur donnent de l'argent ou les aiment. Donc ça revient très souvent, hein. C'est comment on escroque les hommes ou les personnes qui ont de l'argent. Et là, pour le coup, ça peut vraiment marcher. Comment ? On va le voir. Et donc, la dernière, on va le voir parce que justement, c'est le dernier aspect qui attaque les maris. Donc, il y a l'honneur, l'intégrité physique, l'argent et aussi leur raison, donc leur capacité à raisonner, à distinguer les choses, etc. Et c'est en fait peut-être ce qui est le plus attaqué par cette magie amoureuse. On a affirmé que cette accusée avait ensorcelé un homme avec lequel elle entretenait une amitié illicite et qui fut privé de jugement puis mourut. Donc, l'homme fut privé de jugement. Ça peut paraître très curieux, mais vous vous souvenez peut-être qu'au début, je vous ai donné l'exemple d'une plante qui s'appelle le peyote, donc ce cactus hallucinogène. Eh bien, typiquement, c'est des plantes qui peuvent, parce qu'elles ont des pouvoirs, peuvent envoûter et peuvent ôter le jugement du mari. Et donc, on va voir que ce qui se passe très souvent, c'est qu'on peut glisser de manière très, très invisible, très clandestine, justement, ce type de substance dans ce que doivent avaler les hommes. Et ça, c'est ce qu'on pourrait, enfin, on pourrait d'une certaine manière englober ça dans un projet qui est celui d'avanzar el marido, qui serait celui donc de domestiquer le mari d'une certaine manière. Et là, je vous cite juste ce procès parce qu'il est, il est magnifique. Hein, donc c'est aussi une de ce genre d'invocation que récitent les femmes dans le cadre de la magie amoureuse. Donc chante, toi le cheval qui passe, toi la porte que l'on frappe. Toi, la cloche qui sonne, toi, le chien qui aboie. Compañeras, vous en avez le devoir. Je vais vous offrir à Barabbas, à Satan, à Belzébuth, au diable boiteux, donc les mêmes personnages que tout à l'heure, hein, au diable du charcutier, à celui du pêcheur, etc., etc., je passe. Associez-vous à tous ces démons et pénétrez le corps de votre homme, puis livrez-lui un tel combat que vous lui arracherez le cœur pour le jeter dans les flammes du volcan de Barabbas. Et vous lui tournerez tant de fois et vous le tabasserez tellement que brûlé dans de si vives flammes, il sera à vous, allumé d'un amour docile, calme, soumis entièrement à mes ordres, et il viendra autant de fois dans le lit qu'il y a de poutres dans un toit. Et là, en fait, quand on lit un passage comme ça, il est très difficile de distinguer justement la magie amoureuse de la magie de la haine, puisqu'on fait de l'homme sa chose, on l'abrutit complètement, donc on l'utilise comme on peut dire un objet sexuel, et le fait qu'on s'associe au diable, c'est vraiment aussi une manière pour lui de le brûler, donc à la fois de le brûler de désir et de brûler ses capacités cognitives. Et quand je vous disais qu'il y avait des plantes qui pouvaient permettre de faire ça, eh bien c'est vrai que quand on regarde dans les procès les types de plantes qui sont employées ou dans les traités d'histoire naturelle, etc., on retrouve très souvent ce type de plantes. Donc, des plantes qui ont des formes de pendules, donc c'est l'une des plantes que je vous citais au début, là. Et donc, voilà ce que dit un médecin qui va en Amérique au XVIe siècle, Francisco Hernandez, hein, donc le Tetemotiani, ou médecine de l'amour. C'est une espèce de liane qui naît dans les arbres, principalement le Uxin et... j'arrive pas à lire, je suis désolé, et l'Atayo Chocotl, qui possède des feuilles similaires à celles du grenadier, des fleurs jaunes et oblongues à fruits ronds et glutineux. Elle est de nature froide et sèche, elle soigne les enflures et ointes, elle dissipe les fièvres. On dit également que réduite en poudre et mêlée, et c'est ça cette plante qui est intéressante, au tlapatli, elle apporte l'amour. Le tlapatli, c'est une des plantes que je vous montrais au tout début, et vous avez ici une illustration, et cette plante, le tlapatli, donc c'est ce type de plante qui ont des fleurs en forme de clochette, de pendule. Et si vous regardez une loi édictée par l'Inquisition en 1630, vous allez retrouver aussi une mention de ces plantes en forme de cloche. Et beaucoup de personnes, en particulier les femmes faciles et superstitieuses, donc on retrouve toujours ces stéréotypes, etc. Et parfois, les femmes vont dans les champs le jour ou la nuit et prennent certaines boissons à base d'herbes et de racines appelées huachuma, chamico et coca. La coca, on l'a vu. La huachuma, c'est un cactus, le San Pedro, qui est très proche du peyotle. Et le chamico, c'est une plante très proche de celle qu'on a vue ici, le tlapatli. Et en fait, c'est donc une plante qui appartient à une famille qui est celle des datura ou des brugmansia. Donc, je ne sais pas si c'est une famille de plantes que vous connaissez, mais c'est des plantes qui sont à la fois très toxiques, hallucinogènes, donc psychotropes, etc. Et l'une de leurs facultés, justement, c'est doter le jugement, c'est doter les capacités à décider. Le fait qu'on les retrouve dans les procès inquisitoriaux, ça montre deux choses. C'est que les filtres d'amour, d'une certaine manière, ça peut marcher, puisque ce type de drogue, c'est un peu comme les drogues du violeur. On peut faire ce qu'on veut à une personne. Et donc, on peut à la fois lui... j'ai presque fini. On peut à la fois lui soutirer de l'argent ou... effectivement, l'abrutir complètement. Et donc, d'un point de vue, si vous voulez, historique, ça permet de revisiter un peu toute cette histoire des filtres d'amour, parce qu'il y a des plantes qui permettent effectivement ce type de manipulation. Alors, peut-être que ça vous paraît tout à fait bizarre, mais je vous parlais tout à l'heure des molécules qu'on extrayait des plantes. Eh bien, de ces plantes, les brugmansia les datura, on extrait une molécule qu'on appelle la scopolamine, qui a plein d'usages possibles, la scopolamine, c'est encore très utilisé dans les hôpitaux pour le traitement des sécrétions, etc. Mais sous certaines doses, cette molécule, elle produit exactement ça, c'est-à-dire ôter le jugement des personnes. Et en fait, elle est encore très utilisée aujourd'hui. Si vous allez sur le site de l'ambassade d'Équateur en France, de l'ambassade de France en Équateur, vous verrez qu'il y a beaucoup d'arnaques à la scopolamine encore aujourd'hui. Donc les touristes notamment se font avoir, ils absorbent sans le savoir de la scopolamine et on les dépouille de leurs biens ou on leur fait d'autres choses. Et donc c'est quelque chose qui existe et c'était des techniques de la magie amoureuse. Et à Paris, donc il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu aussi des cas d'arnaque à la scopolamine. Et vous voyez bien les plantes dont je vous parlais qui ont des formes de trompettes comme ça. Donc, par exemple, la lima, vous les retrouvez à chaque coin de rue quasiment. Donc, ça veut dire qu'il y a des armes. Ce sont des armes du quotidien. Alors, concrètement, et je vais finir par là, qu'est-ce que ça révèle ou qu'est-ce que ça permet de suggérer cette histoire de ces plantes, de ces armes dans les rapports entre hommes et femmes, mais aussi dans les rapports éventuels entre esclaves et maîtres, ce genre de choses? Eh bien, c'est justement le rôle de la clandestinité, c'est-à-dire le fait que toutes ces plantes, non seulement elles sont prohibées, mais elles sont du coup protégées par la barrière du secret, mais ce sont aussi des plantes qui sont utilisé en secret. C'est ça qui est intéressant avec ce type de ressources, c'est que l'empoisonnement notamment peut... c'est une des manières, en tous les cas pendant un certain nombre, jusqu'à récemment, parce que maintenant il est très difficile d'empoisonner quelqu'un sans laisser de traces, mais au XVIIe et au XVIIIe siècle, empoisonner quelqu'un, c'était une manière de le tuer de façon invisible. Et du coup, ça crée en fait toute une méfiance justement au sein des rapports de couple, puisque y a une petite contradiction là-dedans, c'est que les femmes très souvent doivent préparer les boissons ou l'alimentation de leur mari, et donc elles peuvent y glisser en douce ces substances qui les envoûtent, qui les abrutissent. Et parfois qui les tue. Et il y a notamment un exemple de ça, hein, c'est le chocolat qui peut être, dans lequel on peut mêler du peyote, des datura ou des brugmansia. Et une autre technique qui est intéressante, sur laquelle je vais finir, parce que ça fait très bien l'écho avec l'exposition qui parlait des sécrétions humaines, eh bien, il y a une technique aussi de la magie amoureuse qui consiste à punir Amanri ou au contraire à rétablir sa bienveillance en mêlant dans le chocolat ses règles, ses menstrues. Donc c'est pour ça que là, on voit cette femme qui verse le chocolat. Et donc j'ai retrouvé différents procès, mais je n'ai pas le temps de vous les lire. Et je finirai juste en vous, ce n'est pas une anecdote, mais c'est par une information qui vous montrera que ce type de technique est loin d'avoir disparu, puisque cette fois-ci, c'était il y a 5 ans, alors, en Indonésie. Donc là, c'est bon, pas entre le mari et la femme, mais c'est entre une employée et son patron qui a essayé de piéger son mari, enfin son patron, donc en versant du sang menstruel dans son café. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce genre de technique et quand même, elle a pris un mois de prison pour avoir fait ça. Donc l'histoire de la prohibition de ce genre de pratique n'est pas non plus achevée. Et voilà, donc je vous remercie. J'espère que vous aurez vu les liens avec l'exposition.